Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton.
Bonjour, 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 en direct et en différé surtout du Bergeau, du Bergerac à rue Colbert, à l'occasion des 25 ans de Radio Béton. Le mercredi soir sont organisés dans 25 lieux de Tours, 25 émissions en direct ou presque, puisque vous allez voir débarquer à un moment des motards de Radio Béton qui vont venir nous retransmettre en direct. Donc on ne sait pas quand. Soyez sérieux, jeunes gens. Il y aura peut-être la télé aussi. C'est des poches sous les yeux ce soir, et c'est un des poches sous les yeux spécial, puisque comme vous le savez, des poches sous les yeux, c'est pas vraiment une émission au sens des émissions qu'on entend à Radio Béton en général. C'est des chroniques que vous entendez tous les jours, trois chroniques tous les jours. À quelle heure? À 7h55, 12h55 et 17h55, sauf pendant les 25 ans où là il y a 5 ou 6 chroniques qui sont diffusées toute la journée. Alors c'est une émission compliquée pour les chroniqueurs. Autour de la table, il y a plein de chroniqueurs dont on va parler pendant toute l'heure pendant laquelle on sera ensemble. Pour les chroniqueurs, c'est dur parce qu'il faut qu'ils fassent des chroniques de 3 minutes sur des poches avec une rédactrice en chef qui est là, Odile, qui leur met la schlag en permanence en leur disant ta chronique est pas bonne, elle est trop longue, elle est pas assez joyeuse, bon, bref. Donc on a décidé à l'occasion des 25 ans de Radio Béton de s'offrir une heure d'émission littéraire sur Radio Béton, littéraire et pas que rock'n'roll, même si les chroniques qui passent cette semaine sont rock'n'roll. Et donc les chroniqueurs vont pouvoir parler de leurs livres préférés, qui ne sont pas des poches, ou alors très très peu, il y a quelques poches sur Totodata, mais c'est très peu. Leurs livres préférés, vous aurez quand même des contraintes, parce que vous n'avez pas parlé pendant une heure de votre livre. Vous êtes 6 autour de la table, donc vous parlerez pendant 5 à 6 minutes de chaque livre. Et si vous parlez trop longtemps, comptez sur moi, je vous arrêterai. Et on va voyager avec vous parce que la liste des bouquins est très large. Elle est très large géographiquement. On va se balader partout dans le monde. Elle est très large dans le temps parce qu'il y a des très très anciens bouquins jusqu'à des bouquins très contemporains. Et puis autour de la table, il y a Vincent, il y a Alain, Barbouille, Odile, Jimmy et Cathy. N'hésitez pas à couper vos petits camarades, hein, que ce soit pas des monologues, surtout si c'est très chiant. N'hésitez pas à les couper parce que quelquefois les chroniques peuvent être chiantes aussi. Alors on va commencer avec notre chroniqueur préféré, non pas à moi, Odile, c'est Jimmy. Jimmy qui va nous parler.
C'est moi qui m'y colle alors.
C'est toi qui t'y colle. Et tu vas nous parler alors d'un bouquin pas du tout contemporain.
Non, je vais parler de Roger Grenier. Roger Grenier, c'est quelqu'un que personne connaît. À chaque fois, je présente cet auteur inconnu. En fait, je l'ai découvert un petit peu par hasard en lisant le journal de Polak. Et Polak descendait à boulet rouge tous les bouquins qu'il lisait, sauf Roger Grenier. Et donc, ça m'a intrigué. J'ai cherché, j'ai eu du mal à trouver, beaucoup, beaucoup de mal. Jusqu'au jour où, entraînant à Emmaüs, je suis tombé sur un bouquin de Roger Grenier. Je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. J'en ai pris un. Et puis, en fait, en cherchant là pour les chroniques de ce soir, je me suis rendu compte que j'en avais quand même 10. 10 que j'ai acheté chez Emmaüs.
Les 10.
Et les 10, voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui ne doit pas vendre beaucoup. Il est édité chez Gallimard quand même. Il fait aussi partie du comité de lecture. Mais il ne doit pas vendre beaucoup, donc il n'est pas édité en poche. Ouais. Voilà.
Donc là. Il n'écrit plus d'ailleurs peut-être aussi.
Ah si, il est toujours vivant et tout ça. Hein. Ouais, non. Et donc là, je voudrais présenter un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Ciné-roman, qui retrace un petit peu l'histoire à la fois d'une famille et d'un cinéma depuis le début du siècle. Ça se passe en Pays Basque. Et donc à travers ce cinéma-là et ces familles qui se succèdent à la tête de ce cinéma, on peut voir tous les changements qu'il peut y avoir dans la société, etc. Et toutes les évolutions qu'il peut y avoir à travers la filmographie qui peut passer dans ces salles.
C'est un roman qui est sorti quand?
Bonne question.
Préparez-vous les gars.
Alors ça tombe bien parce que je l'ai sous le nez. Alors je vais arriver à trouver ça. Hein. Le tout c'est que je fasse pas de blanc. Hein, donc faut
72
que
allez.
En 72 ouais merci voilà. Merci. C'est un roman qui a été primé. Hein, ça je le sais. Ça, je le sais. Il a été. Alors, par contre, le prix, je pourrais pas te le dire. Mais
je vais le retrouver, mais vas-y.
Alors, si. Je crois que c'est le prix féminin.
Eh oui.
Hein, c'est ça. Bingo. Non, j'ai un peu révisé moi aussi. Mais Mais voilà, ouais, c'est un auteur que j'aime bien, donc bah, je le présente, et puis j'incite les gens à le lire. Ce qui me plaît bien, c'est que en fait, dans tous ces bouquins, c'est des monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde, c'est des gens qu'on peut croiser, c'est des voisins de palier, c'est des gens qu'on croise dans la rue, c'est pas des super-héros, c'est pas des gens à qui il arrive des choses extraordinaires. En revanche, il y a un style, il y a quelque chose, et puis il y a beaucoup d'humanité, quoi. En ça, ça me plaît bien.
On peut ajouter que c'était un ami d'Albert Camus.
Oui, oui, oui. Je crois même qu'ils ont bossé ensemble sur une revue, Combat, peut-être bien. Ouais. Voilà. Et il va pas arriver à me coller. Hein. Et, voilà, voilà, voilà. Ils ont bu des verres aussi ensemble sur moi. Ouais, voilà.
Très bien, merci Jimmy. Je te laisse le temps pour réviser sur le deuxième. Vincent, rigole pas parce que c'est.
Je me prépare.
C'est à moi.
C'est à toi. Mais par contre, je te laisse le choix du bouquin.
Alors moi, je suis un gros faillot, donc j'ai pris que des livres de poche.
Bravo.
Voilà. Donc je vais, en fait, si je devais en retenir qu'un, ça serait le dernier que j'ai lu, parce qu'il m'a vraiment particulièrement touché. Et donc il s'appelle « Et que le vaste monde poursuive sa course folle ». Il a été écrit par Colm McCann, donc c'est un titre qui se la pète. En anglais, c'est un titre beaucoup plus direct, hein, donc je ne sais pas pourquoi le traducteur a pris une envolée lyrique. Il doit faire référence à un poème que je ne connais pas, mais comme toi non plus, tu ne vas pas m'emmerder. Alors, ce bouquin est particulièrement poignant. C'est un bouquin mosaïque, c'est-à-dire il y a plein d'histoires qui s'enchevêtrent, donc... on est parfois dérouté, on ne sait pas très bien où l'auteur veut nous conduire, mais ça nous tient en haleine tout au long du bouquin. Ce qui m'a surtout intéressé, c'est que il revient sur une anecdote que bon, moi je suis pas assez vieux pour vraiment m'en souvenir. Donc en 1974, il y a pas voilà, c'est pas si vieux que ça. Il y a un Français qui a traversé l'espace qui sépare les Twin Towers à New York. Sur un fil qu'il avait tendu lui-même, c'est une histoire vraie. Il était
un funambule
qui était monté clandestinement de nuit, tirer une flèche d'une tour vers l'autre. À l'époque, les tours étaient en finition, hein, t'es pas encore occupé par tous les businessmen et traders de la terre. Et il est resté trois quarts d'heure sur son fil à faire la nique à toute la police. Et au-delà du plaisir de lire ce roman, je suis allé sur les sites internet qui retracent cette anecdote, puisqu'il y a eu même un long métrage qui a été tiré de cette performance. Artistique et qui donne un côté supplémentaire à la véracité du bouquin. Le bouquin se passe à New York, c'est une mosaïque d'histoires qui s'enchevêtrent dans un New York qui était encore organique et sauvage comme on le dépeint encore en disant ah, les États-Unis c'est violent, etc. Pour ceux qui sont allés plus récemment aux États-Unis, on n'a pas vraiment l'impression d'être particulièrement en insécurité à New York. Là, vraiment, ça fout les jetons. Je pense qu'à l'époque, la police n'avait pas serré la vis sur toute la racaille de New York. Et on sent quelque chose de beaucoup plus en ébullition et beaucoup plus organique. Donc plein de personnages très attachants, de la violence, du sexe. Et donc je conseille à tous la lecture et que le vaste monde poursuive sa course vol chez 10-18.
Merci Vincent, bravo. Ah oui, vous notez maintenant, 10, bravo. Bravo, il y a des faillots dans la salle.
Et moi, j'ai pas été noté, moi.
Ah, c'est bien. Alain, toi qui es venu avec plusieurs bouquins, plus étranges les uns que les autres.
Ouais, alors moi, je vais faire un véritable carnage, je vais violer toutes les règles. Voilà. Ouais. Alors tout le monde a amené ses petits poches en parlant de la profondeur des personnages et de l'émotion. Et moi, je vais présenter un truc bien brutal. C'est pas un poche. C'est même pas en français. Et c'est un bouquin de vulgarisation scientifique, comme on n'en trouve pas ici. Moi, un de mes petits dadas, c'est l'astronomie, l'astrophysique. Et un truc qui me saoule en France, c'est que généralement, quand on cherche ça, tout ce qu'on va trouver, c'est soit les Bogdanov, soit Hubert Reeves. Et justement, on va tomber un peu dans le côté poétique des étoiles et les origines. Et est-ce que Dieu existe et, alors que moi, je veux juste des trucs qui explosent. Et là, je suis servi. C'est un bouquin qui s'appelle Death from the Skies, c'est-à-dire la mort venue des cieux. C'est écrit par un astronome, un vrai astronome, quoi, par un mec qui est venu présenter une émission de télé et qui a dit qu'il était vachement calé en astronomie, qui s'appelle Phil Plaid. Et je désespère de trouver ce bouquin un jour dans les rayons en français.
Il n'est pas traduit là pour l'instant. Hein.
Pour l'instant, il n'est pas traduit et je serais vraiment surpris de le voir un jour parce que des bouquins comme ça, j'en ai une demi-douzaine entre 2000 et 2010. Celui-là, il date d'il y a 2 ans. Et jamais on trouve même de projet de traduction de ces bouquins.
Et il t'a piqué le bouquin, Vincent.
Voilà,
tu
c'est
le bouquin
pas grave,
camarade.
C'est bon, je l'ai lu tellement de fois. Et on a donc division par plusieurs chapitres, et chaque chapitre consacré à une des manières dont l'espace va chercher à se débarrasser de l'être humain. Donc supernova, trou noir...
Mais c'est quoi, c'est technique ou c'est romancé?
Il y a une toute petite partie de fiction en introduction de chaque chapitre où il décrit une petite aventure, quelque chose, un type qui sort de chez lui, qui d'un coup voit tout, la gravité qui s'annule et les choses qui commencent à flotter parce qu'on est en train de s'approcher d'un trou noir qu'on n'a pas vu se rapprocher, ou ce genre de choses. Mais ça dure 2-3 pages et après c'est vraiment de la vulgarisation avec des schémas vraiment très simples. Il n'y a pas une seule équation dans tout le bouquin. Et ça permet vraiment... on réussit à comprendre comment fonctionne, par exemple, une géante rouge qui se transforme en supernova. Je l'ai lu 20 fois et je trouve ça génial à chaque fois. Et je me dis, ah, qu'est-ce qui vient après avant le fer? Ah oui, c'est le silicone. Ouais, je vérifie dans le bouquin. Oui, j'ai des questions existentielles, moi, le soir. Quoi.
Il a écrit autre chose ou pas?
Oui, il a aussi écrit un autre bouquin qui s'appelle Bad Astronomy, qui lui recense toutes les erreurs, soit les erreurs communes commises vis-à-vis de la science, donc tout ce qui touche à l'astronomie, comme la couleur du ciel ou le réchauffement climatique, pourquoi le ciel est bleu ou autre, et aussi les nombreuses erreurs fréquemment commises dans les films. Pourquoi est-ce qu'on entend, enfin, avec Armageddon et c'est un festival, quoi.
Il a aussi créé un site internet.
Oui, il y a le site Bad Astronomy qui a été intégré depuis sur Discovery. Il a super bien préparé son taf, quoi. C'est énorme.
Quel enfoiré. Je suis
et sûr donc, qu'il est de. Il chronique régulièrement les faits astronomiques et notamment, il n'est plus astronome professionnel. Maintenant, il y a plein temps, il est écrivain et consultant sur le sujet.
Je vais même te dire qu'il a une étoile qui a son nom.
Ouais. C'est vrai. Parce que, donc fuck les Bogdanov, quoi.
Voilà. En tout cas, ça donne envie de le dire. Redis son nom, parce que c'est...
Au livre ou à l'auteur?
Les deux, allez.
Ah ben, fou, les deux. Death from the Skies, c'est écrit par Philippe Play.
Merci, Alain.
Ceci dit, Uber Eats, c'est bien aussi, hein.
Ah oui, non, mais j'ai pas dit le contraire, mais il n'y a pas assez d'explosion, quoi. Mais par contre, c'est vrai, c'est toujours mieux que les Bogdanov, ça, on est d'accord. Je sais pas.
Alors, on va passer du 21e siècle, 22e siècle au 19e en parlant de Balzac. Ah, ça fait mal, il faut... Accrochez-vous, Cathy, Balzac, pourquoi Balzac?
Alors, pourquoi Balzac? En fait, j'avais envie de parler de La femme de 30 ans, donc écrit par Balzac. Donc, un roman plutôt l'un des nombreux chapitres de la comédie humaine que Balzac a intégré dans ce qu'il nommait « Scène de la vie privée ». Bon, j'ai bien conscience que pour nombre d'entre nous, Balzac, ça peut apparaître comme une corvée. Hein. Beaucoup se souviennent d'avoir été obligés, au lycée notamment, de se cogner quelques-unes de ses nombreuses productions, sans rien y comprendre, Jimmy, entre autres. Il est vrai que rares sont les enseignants qui parviennent à donner suffisamment de sens à l'œuvre balzacienne pour qu'un adolescent puisse y trouver un quelconque intérêt. J'espère qu'il n'y a pas de prof de lettres dans la salle. J'ai pas trop envie de me faire lyncher. Si
vas-y,
jamais
vas-y,
il y en a un, il donnera son avis sur la question.
Mais alors, c'est bien ce que j'ai ressenti. Hein.
Voilà. Donc, autant l'avouer tout de suite, j'ai lu ce roman il y a plus de 10 ans et je ne l'ai pas relu pour préparer l'émission. Non, c'est vrai. J'avais plutôt envie de parler des sentiments, des émotions que j'ai eues à l'époque de la lecture. La femme de 30 ans, donc, c'est pas le roman le plus connu de Balzac. Au passage, j'en profite pour rappeler que ce monsieur était tourangeau.
Oui.
Voilà. Voilà, ça calme. Donc, ce bouquin a été écrit au 19e siècle. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Justement parce qu'il me paraît assez contemporain de ce que peuvent vivre encore certaines femmes en Occident et ailleurs dans le monde au 21e siècle, à des degrés, bien sûr, divers. Donc, La femme de 30 ans, c'est l'histoire d'une femme, Julie d'Aiglemont, qui, environ un an après son mariage, se rend compte que celui-ci tourne quelque part à la torture. Elle s'était pourtant mariée pleine d'espoir, amoureuse de son époux. Elle deviendra mère, passera sa vie à se morfondre dans son mariage, prendra des amants. Avec l'un d'eux, justement, elle aura un enfant, le petit Arthur, qui connaîtra un destin tragique puisqu'il sera probablement assassiné par sa sœur aînée jalouse. C'est super drôle, hein ? Oui, non, mais c'est du costaud. Bref, cette Julie d'Aiglemont, elle a été surtout contrainte par la société, la religion, à subir sa destinée, sans jamais parvenir véritablement à devenir actrice de sa vie, rongée par la mélancolie et la culpabilité. Alors c'est là que je fais le lien avec ce que peut être la vie d'un certain nombre de femmes dans notre monde actuel. Si on cherche bien, on connaît tous des femmes qui se marient, ou concubines, hein, tout simplement, par convention sociale avant tout. Des femmes qui se mettent en couple avec un homme, tout simplement parce que, passé un certain âge, la société leur renvoie, entre guillemets, qu'elles ne sont pas normales. Non mais, personnellement, j'en connais deux, trois, non pas Odile, hein, je te rassure, Vincent.
Tu la connais mal.
J'en connais deux, trois qui ont osé l'affirmer, mais il est vrai que la plupart du temps, conditionnés par la culture que nous sommes, nous n'en avons même pas conscience. Pour exemple, je connais aussi des femmes qui font des enfants parce que la société leur demande de les faire. Par exemple, si aujourd'hui à une femme un premier enfant, cet enfant a 2 ou 3 ans, son entourage, famille, amis, va fréquemment lui demander « Alors c'est pour quand le petit deuxième ?»
Oui, c'est pour quand ?
Faudrait bien lui donner un petit frère, une petite sœur. Une fois que t'as fait le deuxième, c'est le troisième qu'il faut faire. Donc Balzac, au travers de La femme de 30 ans, a à mon sens réalisé une étude particulièrement fine de la condition féminine, qui a cette qualité pour moi de rester d'actualité. Il est reconnu, Balzac, donc, comme l'un des tout premiers auteurs à s'intéresser à la femme. Lire ce roman peut peut-être aujourd'hui nous aider à la prise de conscience que la femme est encore aujourd'hui soumise au diktat de la société et de la culture. Je vous parle même pas des femmes vivant dans les régions du monde où les conditions de vie sont plus qu'effroyables. Alors je ne vais pas vous parler du romantisme, du style badassien, de la poésie, de l'œuvre. Je peux vous dire que oui, c'est vrai, c'est une lecture ardue, que les descriptions sont nombreuses, que le fourmillement de personnages peut nous perdre.
On peut les sauter.
C'est... Tout à fait, j'allais justement y venir, comme l'a dit récemment l'un de mes amis, tout à fait, on peut sauter des pages et des pages et des passages entiers pour entrer dans l'œuvre, quelle qu'elle soit, hein, celle de Balzac ou un autre auteur, finalement il suffit simplement... Parce que
moi je me souviens de Balzac en tant qu'élève, c'était surtout 3 pages pour décrire une porte. Quoi.
Voilà, donc ces 3 pages-là, tu les enlèves en fait, c'est pas grave, tu les sautes, tu vois que ça commence par la description d'une page.
Les profils de l'œuvre ont été inventés pour ça. Hein.
Tu vas plus loin.
Et du coup, Balzac, ça devient des nouvelles.
Alors, à la base, ce sont des nouvelles, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est chiant, c'est pour ça que vous me coupez, en fait. Ok, donc je reprends, j'ai bientôt fini. Bref, donc on peut sauter les pages. Suffit finalement de choisir ce qui fera écho en nous, quel que soit le bouquin. Et puis surtout se rappeler qu'au travers de la comédie humaine, Balzac a surtout fait une analyse très très fine de la société. Pour terminer, 2 petites anecdotes. Flaubert s'est largement inspiré de La femme de 30 ans pour écrire Madame Bovary. Et surtout Engels, donc philosophe et théoricien du socialisme, grand ami de Karl Marx, disait qu'il avait appris plus sur la société du 19e siècle dans Balzac que dans tous les livres des historiens, économistes et statisticiens professionnels.
Waouh, c'était La femme de 30 ans de Balzac par Cathy. Bien joué. Vincent, garde le micro.
Elle a dit
Vincent, Jimmy, garde le micro, Jimmy, on va revenir vers toi. Ah, Barbouille, tu croyais que c'était toi, d'abord.
One more time.
J'ai encore flippé pendant
One
des
more
heures.
Time. Jimmy, éloge de l'ombre.
Ah oui, éloge de l'ombre. Alors là, on
part au Japon. Là.
On change d'hémisphère, là.
Ouais.
On part au Japon. Éloge de l'ombre, ça a été écrit par Tanizaki Junichiro. Alors, j'ai pas l'accent, mais bon, tout le monde aura compris. C'est un bouquin qui a été écrit dans les années 30, en 33, il me semble, hein, si tu veux être précis.
Oui.
C'est arrivé en France dans les années 70. Et en fait, ce qui est très intéressant... Alors, il a écrit beaucoup, beaucoup de choses, hein, ce monsieur-là. Hein, il a écrit des trucs très, très différents les uns des autres. Un des bouquins qui est le plus connu, c'est le journal d'un vieux fou. Voilà. Mais ce bouquin-là, c'est un petit essai. Aimé. Ça se lit très très bien. Ça fait 100 pages. C'est très facile à lire. Et ce qu'il présente, c'est les différences qu'il peut y avoir, enfin que lui, il ressent, entre l'Occident et le Japon. Et entre autres, sur du quotidien, quoi. Sur la manière de... d'éclairer une maison, sur une manière d'agencer une maison, sur les ustensiles courants comme des couverts, comme l'éclairage public, comme enfin toutes ces choses-là. Et ça donne un éclairage justement Alors, moi, je suis occidental. Hein. Donc, un éclairage, justement, sur les différences qu'il peut y avoir entre nos cultures réciproques, où lui, il parlerait, justement, mettre un voile d'ombre sur ces choses-là. Quoi. C'est pas mal comme transition,
c'est
ça.
C'est un roman ou c'est...
Non, c'est un essai. Et ça se lit, mais ça se lit tout seul. Je l'ai relu, parce que bon, il y avait un petit moment, je ne l'avais pas lu. Ça m'avait fait une bonne impression, mais je l'ai relu, en fait, ça fait une centaine de pages. J'ai dû le lire en 2 heures, 3 heures. C'est très facile d'accès. Hein.
Mais genre Feng Shui ou ça n'a rien à voir?
Alors...
Odile, cache-toi.
Alors, oui.
C'était la vengeance d'Odile pour l'avoir piqué.
Il y a un peu ça, tout à fait, parce qu'il parle des tokonama.
Ah oui, je me disais bien.
Tout de suite, hein, ça te cause.
Mais quoi?
Les tokonama.
C'est quoi?
En fait,
parce que moi, ça me cause
c'est un petit...
C'est super bon.
C'est pas un petit poisson. En fait, c'est une niche dans une pièce qui est une zone d'ombre dans laquelle il y a... toujours quelque chose. Ça peut être un bouquet, un ikebana, ça peut être une calligraphie, ça peut être des choses comme ça. C'est quelque chose qui est mis en valeur justement par la zone d'ombre et l'éclairage qu'il y a sous-jacent dans la maison, quoi. Et qui doit être tout ça doit être en correspondance avec l'ambiance générale. Enfin, ouais, c'est très voilà quoi.
C'est publié où?
C'est publié. Alors je sais pas si ça existe encore ça.
Tu nous sors des livres qui.
Ouais, en fait, trouvé, c'est bien. Ça c'est des trucs que j'ai trouvé d'occasion, mais c'est Publication Orientaliste de France.
Donc là, chez Emmaüs ou...
Celui-là, je ne sais plus. Hein. Mais c'est vrai que j'achète des bouquins de classe. Ouais. Ouais.
Donc ça s'appelle Éloge de l'ombre.
Éloge de l'ombre, Tanizaki Junichiro.
Moi, j'ai lu quelque part qu'Alain Corneau, pour tous les madames du monde, avait demandé à ses...
Oui,
c'est vrai. Les acteurs de lire ça.
J'ai lu aussi. On a les mêmes sources internet, je pense.
Et pourquoi alors? Tu m'étonnes. Mais pourquoi?
Alors là, je saurais pas dire. Peut-être quand il y a Sainte-Colombe qui joue dans sa cabane, là, il y a peut-être un truc là-dedans, parce qu'en fait, il joue dans un recoin, reclus. Il a pas d'éclairage du tout, et il est à fond dans sa musique. Et je pense que le lieu, c'est comme ça, je le dis. Hein, je te le dis comme je le pense. Hein. Je pense que le lieu de sa cabane dans lequel il jouait, il était à fond dans sa musique, et c'est ça qu'il voulait retraduire par Éloge de l'ombre. C'est clair ce que je dis? Pas sûr.
Ouais, ouais, j'ai compris, moi.
Bon, d'accord.
Merci, Jimmy. Barbouille, est-ce que t'étais chaud?
Bonsoir.
Alors là, c'est encore une autre règle. Là, on va parler d'un auteur, c'est ça?
Oui, voilà. Plus précisément de Joseph Conrad. Non, tu me ne piques pas mes notes, s'il te plaît, Alain. Alors, bon, comment je suis venu à Conrad, c'est un fait assez récent. Je suis d'abord parti en fait d'un livre qui s'appelle Exterminer toutes ces brutes de Sven Sven Lindqvist, qui est un auteur suédois qui avait fait un périple en Afrique du Nord et donc qui en a sorti un livre donc qui est à la fois un livre d'histoire, le récit de son voyage et avec des considérations philosophiques également. Et donc il se trouve que bon, ce bouquin m'a énormément plu et m'a fait aimer, enfin m'a donné envie de lire Joseph Conrad parce qu'il en parle beaucoup, et donc notamment du fait de son voyage. Il parle de Au cœur des ténèbres qui se passe au Congo et qui parle beaucoup de la colonisation franco-belge là-bas. Et donc il oppose en fait Conrad à Kipling, donc au niveau du colonialisme. Donc c'est Conrad, c'est un peu l'anti-Kipling de ce côté-là. Donc ça m'a donné envie de lire. Bon, d'abord justement Au cœur des ténèbres, bon qui tout le monde le sait a déjà été adapté par Francis Coppola sous le nom de Apocalypse Now.
Ouais, si tout le monde le sait, bien sûr.
Oui, voilà.
Genre Miro, là.
Donc, il y avait en quelque sorte délocalisé déjà le récit au Vietnam. Bon, j'ai reparlé de Conrad. Donc, j'étais pas tellement. Je connaissais son nom, mais j'avais pas tellement. D'attirance pour ce...
Il n'est pas très rock'n'roll.
Ouais, c'est pas très rock'n'roll comme ça. Et puis bon, c'était plutôt connoté récit d'aventure. Un truc qui m'intéressait pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte, donc au fil des lectures, que en fait le récit d'aventure est juste un prétexte à parler des relations humaines. Donc Conrad est en fait très très fort pour bâtir des personnages assez intéressants, voire très intéressants et très très marqués. Et alors même si par exemple dans mon Typhon que j'ai sous la main là, en fait il démarre par un portrait du personnage principal qui est le capitaine d'un bateau qui lui est complètement dénué de tout intérêt et de toute fantaisie et de toute imagination.
Arrête, il nous donne envie de le lire.
Et pourtant il traverse le roman. Alors, c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt enfin c'est plutôt une nouvelle vu la longueur. Et donc malgré ça on trouve quand même de l'empathie pour ce personnage. Voilà.
Et à part Typhoon, qu'est-ce qu'il faut lire d'autre à part Typhoon de...
Alors qu'est-ce qu'il faut lire d'autre? Donc alors il a écrit beaucoup de nouvelles parce que en fait donc Joseph Conrad a commencé sa vie par être marin. En fait, ce qui donne beaucoup de crédibilité déjà à ses récits. Et donc il a embarqué comme mousse à 17 ans. À Marseille. Ensuite, il a rejoint la marine marchande anglaise. Il est monté en grade, il est devenu capitaine de bateau. Il a fait des voyages donc en Amérique du Sud, donc d'où l'écriture de Nostromo. Donc en Afrique, d'où l'écriture de Au cœur des ténèbres, etc., etc. Et en fait, il n'a commencé à écrire que vers la fin de sa vie. Donc, quand il ne trouvait plus de boulot dans la marine, bah, il s'est dit, je vais me mettre à écrire. Et puis, parce que ça paye. Alors, apparemment, ça payait à l'époque. Et ce qui payait le plus, c'était les nouvelles. Parce qu'elles étaient prépubliées dans les journaux, achetées par les journaux. Et elles sortaient en recueil après. Et donc, en fait, il a écrit quand même principalement des nouvelles. Et en fait, apparemment... Tous ces romans en fait sont au départ des nouvelles qui sont allées plus loin que ça. Quoi. Donc notamment alors bon, ce que j'ai lu de lui, j'en ai pas lu tant que ça finalement, mais je continue. Donc Typhon, alors Nostromo qui est un pavé absolument passionnant sur l'histoire d'un pays fictif en Amérique du Sud. Avec donc dont on voit tous les tous les problèmes géopolitiques de l'époque, avec toutes les nations qui sont coagulées dans ces pays d'Amérique du Sud. Donc on a des Anglais, on a des Garibaldiens italiens, on a déjà les États-Unis. Qui commence à mettre la main sur le sous-continent. Donc on est dans les... J'ai pas situé au niveau du temps, c'est on est à la fin du 19e, début 20e.
Tu veux les dates exactes?
Comment?
Tu veux les dates exactes?
Non. Et je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de parler de Nostromo.
Les deux que tu as sous la main, c'est Typhoon et l'autre, c'est quoi?
Voilà, et l'autre, c'est Le Duel. Alors, Le Duel, je l'ai pris par hasard il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, tiens, Joseph Conrad. Enfin, il vient d'en sortir un autre. Et en lisant la quatrième de couverture, je me suis dit, tiens, mais c'est le film Les Duellistes de Ridley Scott, le premier film de Ridley Scott.
Et je savais bien ça.
Voilà, qui est un très beau film. Donc l'histoire
avec Harvey Keitel,
c'est voilà avec Harvey Keitel et Keith Carradine, voilà. Et pas David. Et donc là, il s'agit d'un duel perpétuel entre deux lieutenants de l'armée napoléonienne qui se retrouvent d'année en année à se battre en duel pour une raison complètement débile au début. Et ça va les tenir jusqu'à la fin de leur vie.
Conrad, on le retrouve en livre de poche.
Oui, voilà, on a toute la
période. On n'est pas obligé d'aller chez Emmaüs pour trouver Conrad.
Voilà, ouais, on peut le trouver dans n'importe quelle boucherie. C'est bon.
Ouais, mais du coup, ça a du cachet d'aller chercher ses bouquins chez Emmaüs.
C'est une aventure.
Voilà, on les a pas forcément.
Merci, Barbouille.
De rien.